France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos.
Demain, cela fera 3 ans que la Fédération de Russie a envahi son voisin ukrainien. Depuis, c'est la guerre, la peur, les déportés, les blessés, les morts. L'enfer de la guerre. Une fois de plus, militaires et civils sont confrontés à l'horreur, à la perte, au deuil. L'un des désastres majeurs de la guerre est la destruction de la pensée. La guerre détruit les liens, elle détruit les lieux où la pensée se régénère. La littérature permet de garder ce lien. Lire sauve, écrire protège la pensée, écrire permet de tisser des liens entre les pensées en éruption ou mutilées, écrire permet de poser un cadre à penser. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de Neila Chidiac, spécialiste du traumatisme psychique et de l'écriture thérapeutique. Pour ces milliers de traumatisés que cette guerre laissera, pour les survivants des conflits, de la barbarie, des attentats, pour ceux qui doivent vivre après avoir frôlé la mort, l'écriture favorise une reconstruction psychique. Mais comment l'écriture agit-elle? De quel genre parle-t-on? Peut-on écrire pendant le traumatisme et que nous apprennent les grands écrivains de ce travail? On en parle avec Neila Chidiac. Neila Chidiac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne. Vous avez fondé les premiers ateliers d'écriture thérapeutique au centre hospitalier Sainte-Anne à Paris. Et votre dernier livre, absolument passionnant, j'engage vraiment tout le monde à le lire, s'intitule « L'écriture peut-elle avoir une action sur un traumatisme psychique ?» L'écriture qui guérit, c'est édité chez Odile Jacob. Pourquoi je le dis comme ça, non? L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature. Je vous ai inventé un autre titre, c'est pas grave. Mais c'est édité chez Odile Jacob. Je voudrais d'abord qu'on parle de votre histoire pour bien comprendre votre travail. Vous êtes né au Liban. Et quand la guerre est arrivée, ça a été l'exil pour vous, pour votre famille?
Oui, mon père a choisi de partir. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, j'adore l'importance qu'on donne aux mots. Comme disait Clément Rosset, les mots, c'est quelque chose d'important. Le mot exil m'a toujours dérangée. Et quand j'ai regardé l'étymologie, j'ai compris pourquoi, en fait. Ça vient du latin et ça veut dire expulsion, avec la notion d'être banni. Je ne me suis jamais sentie ni expulsée ni bannie, même si je n'avais qu'une seule envie, c'était de retourner au Liban. Donc oui, nous sommes partis... en Angleterre la première fois et puis la deuxième fois. Et puis à un moment donné, il fallait choisir et j'ai choisi la France à 18 ans.
Alors vous êtes installée à Paris, vous faites des études de psychologie et vous êtes rapidement intéressée au trauma. C'est pourquoi? C'est à cause de cette enfance, de votre pays, de cette guerre?
Il me semble que oui, mais je ne l'ai compris que bien plus tard. Au départ, c'était parce que j'ai fait cette rencontre avec le général Louis Croc, qui a parlé du traumatisme.
Précise que cet homme, hein, parce que je l'ai connu et c'est un homme remarquable, qui était médecin militaire, qui a été un des premiers à se consacrer aux victimes de guerre traumatisées, il a créé les cellules d'urgence médico-psychologiques.
En 1995, voilà. Tout à fait. Et je l'avais eu comme professeur. Et donc, dès qu'il a créé les cellules, j'ai travaillé avec lui. Et ce qui m'intéressait, c'est que dans le traumatisme psychique, ça peut arriver à tout le monde. Donc, étant jeune psychologue, je n'avais pas envie d'une spécialité précise. Et le trauma, c'est toute personne.
Alors justement, il vous a demandé de le rejoindre, effectivement, pour porter assistance aux rescapés et aux victimes de catastrophes. Vous allez intervenir après l'attentat dans le RER à Port-Royal, lors de prise d'otages. Ces victimes traumatisées, c'était novateur à l'époque. On travaillait déjà dessus aux États-Unis, mais pas en France.
Alors effectivement, ils avaient cette notion du débriefing qui vient de Jeffrey Mitchell des États-Unis, mais qui n'était pas aussi élaboré que la pensée française, et c'est le général Croc, avec la pensée aussi de Claude Barrois, ils ont pu mettre en place un système qui est assez exceptionnel. Et c'est le général Louis Croc qui a fondé l'ECUMP.
Alors vous travaillez aussi à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et vous allez y créer, au sein de la clinique des maladies mentales de l'encéphale, en 97, des ateliers d'écriture thérapeutique. À l'époque, il y avait déjà des ateliers d'art-thérapie. C'est venu d'où cette idée?
C'est arrivé d'une contrainte. J'avais un excellent patron, un chef de service qui s'appelait Bertrand Samuel Lajeunesse, parce qu'à l'époque, en 97, même si le traumatisme psychique existe depuis 1888 par Oppenheim, la névrose traumatique, ce n'était pas très en vogue, je dirais, parce qu'il n'y avait pas autant d'attentats et autant de guerres. Et quand j'avais dit j'aimerais bien avoir une consultation de psychotrauma, ça ne le passionnait pas plus qu'autre chose. Il m'a dit trouvez-moi autre chose et on négociera. C'était une façon de me pousser dans mes retranchements. Et en me promenant, je vois tous ces ateliers. Et là, je me suis dit, peut-être que je vais pouvoir pallier ma passion personnelle pour la littérature et mon métier. Et c'est ainsi que j'ai proposé les ateliers d'écriture thérapeutique. Et il m'a dit, c'est génial.
Ça consistait en quoi votre travail et c'était quel type de patient? Il souffrait de quoi?
Alors, Hôpital Sainte-Anne, un service hospitalo-universitaire, donc c'était des tout-venants, des adultes. Et dans l'atelier d'écriture, je pouvais prendre toutes les pathologies. Donc ça allait de la mélancolie, de troubles des conduites alimentaires, phobie, névrose, psychose.
Vous les faisiez écrire sur quoi? C'était quoi la consigne?
Alors, la consigne n'était jamais la même. Et je travaillais infiniment sur le changement du fond et de la forme. Donc, par exemple, ça pouvait être dialogue, prose, les oulipos, donc l'ouvroir littéraire potentiel que je remercie infiniment parce qu'il vous donne des idées incroyables. Et puis après, la poésie qui est un domaine infini.
Je précise que vous êtes poète d'ailleurs. Beaucoup de gens sont rebutés parce qu'ils sont pas lecteurs, ils se disent qu'ils savent pas écrire. Vous étiez clair là-dessus, c'est pas le style qui était important.
Alors effectivement, je me suis retrouvée en train d'apprendre cette méthode dans d'autres pays. C'est surtout en France où il y avait une crainte chez les patients de « je ne sais pas écrire » ou « je ne veux pas lire après telle personne tellement elle écrit bien ». Et donc c'était très important, et je le répète à chaque consigne, à chaque atelier, la qualité ne compte pas et la quantité ne compte pas. Ce n'est pas un atelier où on attend un produit, pas du tout.
Vous avez constaté rapidement des bénéfices sur ces patients ?
Très rapidement, je dirais, à cause de la mise en abîme du cadre. Il y a le cadre de l'atelier, il y a le cadre de la feuille, il y a le cadre de la consigne. Et autant on peut écrire ce qu'on veut, puisque la quantité ne compte pas, la qualité ne compte pas, autant la grande contrainte, c'est la contrainte temporelle. Vous avez 30 minutes pour répondre à une consigne du genre un dialogue entre glycine et une arme.
Ce que vous constatiez, c'est quoi ? C'est que l'écriture fait évoluer la pensée du patient ?
Alors, elle l'a fait évoluer après. Ce qu'elle fait au tout début, c'est qu'elle va permettre de mettre de l'ordre. C'est très difficile pour les personnes en grande souffrance psychique ou en agitation psychique. Là, je vous parle donc pas que du trauma. De mettre en ordre sa pensée est très difficile. De mettre une distance par rapport à l'émotion est difficile. Donc, ne serait-ce que écrire permet de remettre les choses à leur place. Et la notion de place est très importante.
Vous animiez ces ateliers, je dis bien animiez, c'est essentiel de ne pas les laisser seuls, parce que ça peut être dangereux, finalement, de réévoquer ou de qu'un traumatisme revienne.
Bien sûr, c'était vraiment très bien d'être à Sainte-Anne, parce qu'il y avait d'autres suivis en parallèle, mais effectivement, je les accompagne, et c'est là où aussi la formation est importante, parce qu'on ne donne pas n'importe quelle consigne à n'importe quel patient, à n'importe quel moment. Il est important, me semble-t-il, d'évaluer si on peut proposer une consigne un peu douloureuse, un peu délicate, même si parfois on ne sait pas ce que ça va donner, puisque, comme dit René Char, les mots savent de nous ce que nous ne savons pas encore. Mais on peut quand même savoir si c'est le moment d'aller dans un certain chemin d'écriture ou pas.
Là, il s'agissait de guérir des traumas par l'écriture, mais est-ce que des traumas peuvent être révélés par l'écriture ? Est-ce que ça peut permettre de lever des amnésies, par exemple ?
Oui, absolument. En fait, très souvent, on vient pour un traumatisme et il peut parfois, voire souvent, en révéler un autre. Donc, il y a eu effectivement des révélations qui ont été faites en plein atelier d'écriture. Donc, c'est pas évident. C'est là où je dis, oui, l'écriture thérapeutique est merveilleuse, mais on doit faire attention.
C'était en 97, vous avez quitté le centre hospitalier en 2010. Ça continue, les ateliers ?
Oui, ils continuent, absolument.
Donc ça, c'est très important. Oui. On revient à votre livre « L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature ». Vous répondez à cette question en convoquant des écrivains d'hier et d'aujourd'hui à travers un abécédaire qui couvre toutes les époques, tous les genres et tous les pays. On en parle tout de suite. Carnet de santé qui s'intéresse aujourd'hui au lien entre l'écriture et la guerre et au rôle thérapeutique que peut avoir l'écriture. Pour en parler, Neila Chidiac, docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne. Vous avez analysé le travail de ceux qui ont écrit pendant ou après les guerres. Depuis quand on a des écrits en temps de guerre ?
Oula, ça remonte à il y a très très longtemps. Je pense que les premiers, c'est l'épopée de Gilgamesh, donc avec l'écriture cunéiforme. Ensuite, on en retrouve quelques-uns chez les Égyptiens avec les hiéroglyphes. Mais ce qu'on a retrouvé qui pourrait se rapprocher de ce qu'on va appeler l'écriture de l'introspection, c'est avec Épictète. Même s'il y a eu Homère et Gilgamesh, Épictète vraiment conseillait d'écrire d'abord des citations pour se nourrir et ensuite d'écrire et de méditer pour pouvoir affronter le réel. 1er et 2e siècle.
On va parler du but de ces écrits. Vous citez Derrida quand il dit « on écrit parce que l'on ne peut dire ». C'est écrire ce qu'on ne peut dire et pour survivre ?
C'est les deux. Le ET est très important. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, mais aussi ce que je ne peux pas formuler. La parole n'est pas toujours facile.
Il s'agit aussi quand même de laisser une trace, de témoigner.
Oui, la notion de trace est excessivement importante avec l'écriture. Si on remonte à la nuit des temps, ce qui reste, c'est effectivement l'écriture. C'est une trace, c'est une narration de notre histoire et de l'histoire collective. Il n'y a pas que, c'est l'individuel et le collectif avec l'écriture.
Alors, j'en prends Derrida, qui dit donc, on écrit parce que l'on ne peut dire, mais aussi parce que les autres ne veulent pas entendre. On a tous entendu parler, bien évidemment, de la façon dont les survivants des camps, quand ils sont revenus, n'ont pas parlé, notamment parce qu'on ne voulait pas être entendu. C'est à ça aussi que ça servait.
Oui, absolument. Il y a ceux qui ne veulent pas parler, ceux qui ne veulent pas dire. Et puis, il y a des, j'ai eu dans mes patients comme ça des personnes qui ont découvert que leurs parents étaient dans les camps des années plus tard dans le journal intime des parents. L'histoire était arrêtée et ça a pu leur faire comprendre des choses.
Il y a une question qui traverse tout le livre, hein, c'est quand écrire, notamment chez les déportés. Ça a été parfois longtemps après. Vous évoquez un immense homme, hein, Georges Samprin, qui est un écrivain et un homme politique espagnol, qui fut déporté à Buchenwald, qui a raconté cela longtemps après.
Exactement. Il lui a fallu 15 ans. En fait, il a écrit ce qui s'est passé avant les camps, parce que il n'a pas été dans l'impossibilité d'écrire. Il n'était pas empêché. C'était un homme qui allait bien. Donc, il a écrit ce qui se passait jusqu'à la porte du camp. Il a écrit ce qui s'est passé après la sortie de la porte du camp, mais il n'arrivait pas à écrire ce qu'il y avait à l'intérieur. Il lui a fallu 15 ans. Non pas parce qu'il ne pouvait pas l'écrire, mais parce qu'il n'osait pas l'écrire pendant ces 15 ans. Il avait peur d'en mourir. Mais ne pas l'écrire, donc ne pas le penser, c'était mourir aussi. Et j'aime bien, il dit, j'ai passé 72 dimanches à Buchenwald. Et il m'a fallu 15 ans pour parler de ces 72 dimanches et du reste.
Et la peur aussi de raconter, que les gens, effectivement, ceux qui sont là, mesurent vraiment ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y a aussi cette peur de cet enfer total ?
Oui, mais c'est surtout pour soi, parce que quelque part, alors je n'ai pas eu la chance de l'interviewer, mais j'ai parlé avec des patients qui ont vécu des horreurs insupportables, qui m'ont dit comme si je l'écrivais, c'était comme si ça devenait vrai. Ce n'est pas que ce n'était pas vrai, ils savent que c'est vrai. Mais vous, si je rebondis en arrière, vous avez parlé de traces. Tant qu'il n'y avait pas de traces de ce que moi j'avais vécu, le moi, le je, c'était comme si ça n'avait pas vraiment eu lieu. Mais on ne peut pas vivre avec quelque chose qui a eu lieu et qu'on n'arrive pas à poser.
Pour d'autres, c'est durant le conflit qu'ils ont écrit. Évidemment, on pense au journal d'Anne Frank. Comment vous l'analysez ?
Alors, tout comme le journal de la jeune ukrainienne dont je parle, Yeva,
absolument,
qui a 12 ans et qui, elle, a eu la chance de s'en sortir, le journal intime, ou le carnet, en fonction des terminologies, c'est quelque chose qui va vous aider à tenir. Ça devient comme une colonne vertébrale qui vous permet de tenir jour par jour, au moment de l'atroce, mais aussi de penser. Et donc, on écrit quand ? On écrit tout le temps, pendant et après.
Pourquoi vous dites de penser ? Parce que ça, on pense mieux en écrivant ?
Il faut savoir que quand on est assailli par le bruit et la crainte de mourir permanente, c'est pas je pense mourir, c'est à tout moment je peux mourir. Et quand on assiste à une destruction et vraiment environnante, il est difficile de penser. Et donc la pensée, elle est soit sidérée, donc figée, gelée, soit elle est trouée, j'ai du mal à penser, soit elle est en boucle. Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que je vais mourir ? Et donc en fait, pouvoir écrire des phrases, c'est pouvoir reprendre la liaison de la pensée.
Mais c'est pas forcément au moment de ces écrits, c'est pas forcément pour ensuite être publié et laisser ça à la mémoire collective, ça peut être simplement pour soi-même.
C'est surtout pour soi-même. Ce qui se passe après, ça concerne la vie de la personne, mais c'est vraiment pour soi.
Les écrits durant la Première Guerre mondiale ont été très nombreux. Vous en avez tiré quoi ? Parce qu'on a l'impression parfois que les soldats, quand ils rentraient en permission, racontaient ce qui s'était passé ou pas. Justement, qu'est-ce qu'on en tire ?
On en tire une énorme correspondance qu'on a moins à la Deuxième Guerre mondiale et moins dans les guerres actuelles, mais on a partout le journal. Et on en tire ce besoin, en fait, de confronter sa pensée à l'autre en racontant et dans l'attente superbe de pouvoir recevoir une lettre. Mais c'était exactement comme le journal, c'est-à-dire en écrivant, je suis vivant.
Et justement, est-ce que pendant ceux qui écrivaient des lettres les envoyaient tous ou parfois ne les envoyaient pas, justement ?
La plupart les ont envoyés, mais on a trouvé des personnes qui n'ont pas envoyé. En revanche, on ne sait pas s'ils ne voulaient pas les envoyer ou s'ils n'ont pas eu l'occasion de les envoyer. Mais on a aussi trouvé des gribouillages sur des boîtes de cigarettes. Voilà. C'est, l'acte d'écrire était vraiment important, un acte de vie.
Et très curieusement, la poésie serait le genre le plus pratiqué durant la guerre. On a du mal à comprendre honnêtement que quelque chose qui paraît, j'allais dire doux, mais en tout cas qui relève de la beauté, puisse être le genre préféré.
Oui, alors en fait, il y a une question, j'ai envie de dire peut-être philosophique, parce que le philosophe Alain disait que la poésie, c'est de la philosophie, donc c'est une façon de penser beaucoup plus libre. Mais il y a eu aussi quelque chose de l'ordre du technique, c'est-à-dire que la poésie, ça peut être un fragment. Vous pouvez écrire un quatrain, vous pouvez écrire un haïku, c'est quatre lignes, trois vers. Donc c'est une forme beaucoup plus accessible en temps de bombardement ou de guerre ou bien de non-temporalité possible longue. Il faut penser longtemps et construire. Il faut qu'il y ait une architecture de pensée pour faire une nouvelle ou un conte. Alors que la poésie, c'est rapide, c'est fulgurant. Et aussi, l'étymologie, c'est composition. Donc je compose avec ce que j'ai. Et certains m'ont dit, je me nourrissais de la poésie des autres pour toucher la beauté et essayer de la mettre dans mon poème.
Les combattants, selon les pays d'où ils venaient, proposaient des genres différents, justement, de témoignages ou pas ? Est-ce que certains, c'était plus de la poésie, d'autres plus du récit ? Est-ce que ça change ?
C'est surtout des fragments. Donc ça sera soit du journal, soit de quelque chose de proche de la poésie. Peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était de la poésie. Ils ne se disent pas, je vais écrire un haïku ou un quatrain. Mais c'était des fragments qui étaient poétiques, que certains ont retravaillé et d'autres pas. Et certains ont tenu des journaux très, très, très stricts, presque comme ce qu'on appelle les diaries, parce qu'il y a une différence entre diary et journal intime.
Et est-ce que pendant les guerres ou autres, notamment pendant les guerres, je pense aux infirmières, est-ce que les femmes écrivaient aussi ?
Oui, j'en parle un petit peu au début du livre, dans le Mass Observation qu'ont fait les Anglais. Les femmes écrivaient, oui. Il faut juste quand même se rappeler que dans le temps, on n'avait pas le droit d'écrire en tant que femme, et que dès qu'on a eu le droit d'écrire, c'était des listes. La liste des fils de couture, la liste des rideaux, la liste des courses. Mais oui, on a des écrits d'infirmières, absolument.
Il y a aussi un autre genre que vous appelez les livres vivants. On va en parler tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancausse.
Carnet de santé consacré aujourd'hui au rôle de l'écriture sur les traumatismes psychiques et aux écrivains qui ont raconté l'enfer de la guerre. Pour en parler, Neila Chidiac, docteur en psychopathologie, psychologue clinicienne, auteur de L'écriture qui guérit, traumatisme de guerre et littérature chez Odile Jacob. C'est une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost avec à la technique Alexandre Dang et Sacha Krine à la vidéo. Donc je lisais à côté des romans, des poèmes, des journaux, des correspondances. Vous parlez de ces livres vivants, c'est quoi ?
Ça, c'est terrible, ça, c'est très émouvant. Ce sont donc, c'est en Russie, ce sont des poètes, femmes et hommes, mais je donne l'exemple surtout de deux femmes qui avaient tellement peur qu'on supprime leurs écrits, étaient obligées de les apprendre par cœur. Et donc elles écrivaient la nuit, par exemple, un poème, et puis le lendemain, en fumant sa cigarette, elles lisaient le poème à sa compagne ou à son amie. Son amie devait retenir le poème, comme ça elles étaient deux à avoir le poème dans leur cœur, dans leur tête, et puis elle brûlait le poème écrit avec sa cigarette. Pour moi, c'est une grande crainte, la censure, voilà.
Selon que l'écrit est fait pendant ou à distance des faits, est-ce que ça a la même valeur thérapeutique ?
Ça a la même importance thérapeutique. La valeur, elle est, j'ai envie de dire, de l'ordre presque du vital de la pensée en temps de guerre. Et en post-guerre, en post-trauma, quel que soit le trauma, elle a une autre valeur qui est la valeur de passer du survivant au vivant.
Justement, je voudrais qu'on s'arrête là-dessus parce que vous dites, hein, et notamment quand vous faisiez ces ateliers thérapeutiques, qu'il s'agit de faire revenir les victimes dans notre monde, celui des vivants, pour ne pas les laisser dans le monde des survivants. Mm-hmm. C'est quoi la différence ?
Si vous voulez, le survivant, il garde en lui des séquelles. Ces séquelles, d'un point de vue de la psychopathologie, ça peut être des réviviscences, être en alerte tout le temps, ne pas pouvoir investir les relations affectives, et puis une incapacité presque au plaisir quel qu'il soit. Et il y a cette image d'être en alerte. J'avais une patiente comme ça qui me disait, je suis une sentinelle qui n'a jamais d'arrêt. Personne ne vient prendre le relais. Je suis une sentinelle, je n'en peux plus, je ne dors pas. Elle est pourtant vivante, elle est sortie du traumatisme, il y a ce côté survivant avec séquelles. Le monde du vivant, il y a quelque chose de plus calme. Je sais ce qui s'est passé, mais je continue à vivre.
Le survivant, il y a toujours un traumatisme.
Il y a toujours, en fait, je vis malgré.
Est-ce que le genre choisi pour écrire influe aussi sur la valeur thérapeutique ou pas, selon la façon dont on écrit ? Est-ce que l'on écrit ?
Je ne pense pas. Je pense que c'est très personnel. C'est-à-dire, l'écriture est personnelle, mais le trauma et le vécu du trauma est quelque chose de très personnel et de très relatif au temps. Comme on a vu, Semprin, il lui a fallu 15 ans. D'autres ont besoin d'écrire et de témoigner tout de suite, et d'autres pas. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est de prendre son temps.
Souvent, Georges Semprin, il disait que tout ce temps, c'était pas effectivement pour oser dire, mais pour savoir comment.
Exactement. Il le dit tout à fait. Ce n'est pas que je n'avais pas le courage, mais je ne savais pas quelle forme prendre. Et la forme, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque c'est le fond qui remonte à la surface. Donc, comment vous allez pouvoir faire remonter le fond sans que ça ne déborde, sans que ça ne vous anéantisse?
Justement, c'est ce qu'on peut se demander. Est-ce qu'écrire, c'est pas dangereux pour s'être traumatisé? On pense à Primo Levi, on a dit qu'il s'était suicidé après avoir raconté, même si aujourd'hui on discute encore des causes de sa mort. Mais on pense à lui quand vous dites ça.
Bien évidemment, lui qui a écrit peut-être trop vite, publié peut-être trop rapidement, ou peut-être en fonction aussi de son histoire. Son histoire n'est pas la même que celle de Semprin au niveau de l'emprisonnement et de l'atrocité. En revanche, ce qu'on sait, c'est que le temps est quelque chose de personnel et de relatif. Donc il faut savoir le respecter et faire écrire juste pour écrire, non.
Mais est-ce que écrire, du coup, peut réveiller les traumatismes, même à distance?
Absolument. Personnellement, je trouve qu'il est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dangereux d'écrire dans le après qu'au moment même. Au moment même, c'est une bouée de sauvetage. C'est votre oxygène. L'écriture peut être de l'oxygène. Après, il faut faire attention.
Et idéalement, il faudrait être accompagné.
Idéalement, il faut être accompagné.
Dans le processus de guérison, si après le récit de la guerre, l'auteur se met à la fiction sur autre chose, c'est bon signe, ça ?
C'est très bon signe de pouvoir faire les deux. C'est pas tout de suite aller dans la fiction. On a vu Semprin, voilà, il en avait besoin. Mais c'est cette souplesse psychique de pouvoir faire les deux qui est très bon signe.
On a parlé des genres littéraires, il y a le style. Vous l'analysez beaucoup, le style ?
Alors, je ne fais pas d'analyse non. des écrivains, mais quand j'ai un patient en suivi et qu'on utilise l'outil écriture, oui, quelqu'un qui n'arrive pas à changer de forme, alors que je propose quand même des formes assez étonnantes, c'est qu'il y a quelque chose qui est fixé, qui est figé. Donc, je ne suis pas toujours très contente. Et quand il y a cet assouplissement psychique, là, c'est très bon signe.
Vous parvenez, chez vos patients, à voir la souffrance derrière le style ? Avoir la pathologie derrière le style ?
Beaucoup plus que dans le contenu.
C'est-à-dire ?
Prenez Pérec. Le silence chez Pérec, il se voit dans les trois petits points de suspension, dans la disparition. Voilà, c'est du Pérec chez mes patients.
Vous parlez de... Vous prenez 26 écrivains pour parler d'eux et pour qu'on comprenne bien ce qu'ils ont vécu, comment l'écriture a pu leur apporter des choses. Je voudrais qu'on parle notamment de Vajdi Mouawad, que je ne connaissais pas, je suis obligée de le reconnaître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur ce travail que vous avez fait autour de cet auteur ?
Oui, Vajdi Mouawad, comme vous l'avez dit, j'ai voulu présenter plusieurs auteurs de différentes guerres et aussi de différents styles.
Donc, ne sont pas forcément revenus traumatisés, hein, mais qui
racontent.
Non,
bien sûr, je ne me permettrai jamais de dire qu'un de ces 26 a un traumatisme. En revanche, les 26 ont vécu la guerre d'une manière ou d'une autre, âge différent. Et comme vous parliez de style juste avant, effectivement, j'ai voulu essayer aussi de refléter par ces auteurs des styles différents. Et Vajdi, c'est le plus grand dramaturge contemporain. Son théâtre est immense. Moi, j'adore dire que c'est le Shakespeare du XXIe siècle. Et ses écrits sont d'une telle puissance que vraiment, alors que je suis très habituée à lire, il est juste... voilà, le traumatisme de toutes les guerres se retrouve... En fait, c'est presque de la mythologie revue et corrigée par Vajdi Mouawad.
Est-ce qu'on peut parler aussi de l'auteur japonais, en l'occurrence je prends Kenzaburo Oe, des auteurs japonais qui ont apporté beaucoup aussi.
Les Japonais, moi j'ai appris quelque chose en lisant la littérature, pardonnez-moi, post-guerre, c'est que je ne savais pas qu'ils avaient honte d'écrire, c'est-à-dire il y en avait qui voulaient écrire, qui voulaient publier, mais il y avait quelque chose dans l'ordre du collectif qui faisait que non, on ne doit pas en parler.
Ils en étaient empêchés.
Et ça a été très difficile et je le ressentais dans leur écriture. Et Kenzaburo Oe a pris du temps, alors qu'il a été à Hiroshima juste après. Ouais. Ara, à la lettre H, y était, mais ils n'ont pas pu.
Vassily Grossman, immense écrivain.
Oui.
Ça aussi, qu'est-ce qu'il apporte ?
Alors, il apporte quelque chose de merveilleux qui rejoint un peu la littérature vivante. C'est-à-dire que son dernier « Tout passe », qui est un des derniers, on a voulu le lui voler, le lui prendre, le confisquer. Ils l'ont confisqué, mais il l'avait fait passer ailleurs, et heureusement d'ailleurs. Donc, Vassily Grossman, non seulement c'est un témoignage, mais j'ai envie de dire, c'est une, surtout dans « Tout passe », une leçon de vie. Qui questionne beaucoup le « et qu'est-ce qu'on fait après quand il n'y a plus de guerre et que vous vous retrouvez face à votre bourreau, par exemple ?»
Plus proche de nous, il y a bien sûr eu les attentats. Magnifique livre qu'a écrit Philippe Lançon, « Le Lambeau », où il raconte, lui, c'est vraiment sa reconstruction physique, chirurgicale. C'est pas une interrogation sur notre monde, etc. C'est vraiment ce qu'il a vécu, lui. Ça lui apporte quoi, ça ?
Eh bien, c'est un tissage. J'en parle d'ailleurs un petit peu de lui au tout début du livre. Le général Croc dit « Le traumatisme rentre par les cinq sens. » Donc, tout votre corps et tous vos sens sont éclatés. Et ce que a fait, quelque part, Philippe Lançon, tout comme les autres, mais surtout ceux qui ont été blessés dans la chair, c'est que la chair était en délitement et l'écriture a pu recoudre cette chair. C'était une forme de point de suture, mais par l'écriture, du corps, des blessures et des cinq sens complètement oblitérés par le trauma.
J'aimerais juste qu'on précise bien, pour tous ceux qui ignorent ce qu'est un traumatisme de guerre, enfin vraiment de manière psychologue clinicienne que vous êtes, à quel moment on réalise qu'on a un trauma de guerre ?
Quand on ne fonctionne plus, quand on a du mal à fonctionner, quand on n'arrive plus à aimer, quand on a du mal à travailler, mais plus, hein, parce que sinon on a tous des moments où on n'aime pas et on a tous des moments où on n'arrive pas à travailler. C'est un empêchement qui est invalidant. Il y a la notion d'invalidité psychique.
Et on peut ne pas réaliser qu'on est revenu avec un traumatisme qui va nous empêcher de fonctionner, alors qu'apparemment on fonctionne.
Oui, tout à fait. J'ai des patients qui m'ont dit « je comprends pas ce qui se passe, ça fait 25 ans que j'ai vécu ça et là c'est rien ce qui m'arrive, ma femme me quitte et je n'y arrive plus ». C'est pas un traumatisme d'être quitté, c'est très douloureux, mais ça a fragilisé quelque chose de l'ordre du passé qui n'avait pas été élaboré. Mais on peut aussi vivre des traumatismes, j'insiste, des traumatismes de guerre, des traumatismes très lourds et ne pas avoir de trauma. On peut. Toute personne qui vit un traumatisme n'est pas traumatisée, heureusement.
C'est ce qu'on comprend aussi avec justement les auteurs dont vous parlez dans ce livre. Merci infiniment, c'était absolument passionnant et je ne peux que recommander votre livre, Nella Chidiac, l'écriture qui guérit, c'est chez Odile Jacob. Allez-y surtout.
Merci beaucoup. Thank you.